Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Regard sur l'actualité de la semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités ici au studio et au téléphone, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur la RDC. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Claude Sengenia. Il est journaliste et correspondant de Actualité.cd, basé à Butembo, au Nord Kivu. Chers collègues, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour cher Tati, bonjour à nos co-débatteurs.
Merci beaucoup. Nous avons comme deuxième invité honorable Irakan Gratien de Saint-Nicolas. Il est député national élu de l'Ituri. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous honorables.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Troisième invité, il s'agit de John Okanyunyu. Il est correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour Tati, bonjour à tous les co-débatteurs ainsi qu'à toutes les auditrices et auditeurs de radio Okapi.
Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro. Kelly Nkoute coordonne ce magazine. Martin Sebujangwe est à la supervision du magazine Regard sur l'actualité et Polydor Basunga s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité dominante au cours des 7 derniers jours des 7 semaines qui est en train de finir. 3 thèmes sont au rendez-vous de ce magazine Regard sur l'actualité de la semaine, à savoir la visite de la première ministre à Goma, au Nord Kivu, et à Bounia, en Ituri, pour évaluer sur le terrain l'efficacité de l'état de siège instauré par le chef de l'État depuis le mois de mai 2021. Le renouvellement de l'intention du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'aller au référendum pour trancher sur les changements ou la modification de la Constitution lors de son meeting tenu à Kalemi dans le Tanganyika et les débuts de l'opération de la délivrance des permis de conduire en RDC. Pour en parler donc, nous avons 3 invités. Il s'agit de Claude Sengenia, il est journaliste et correspondant de Actualité.cd, basé à Butembo au Nord Kivu, honorable Irakan Gratien de Saint-Nicolas qui est député national élu de l'Ituri, et comme 3e invité, John Kanyunyu, il est correspondant de la radio international allemande Deutsche Welle. Avant d'analyser ces 3 grands thèmes ayant dominé l'actualité cette semaine, j'accorde à chacun de vous 1 ou 2 minutes pour commenter une nouvelle qui a retenu votre attention cette semaine au pays ou à l'étranger. Alors nous allons commencer par Claude Sengenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo. Cher Claude, dites-nous quelle est l'actualité qui a dominé, qui a retenu spécialement votre attention dans les Grands Nord.
Merci beaucoup. En fait, dans notre région, ce qui est l'actualité qui a plus dominé, ce sont des cas d'incidents de bavures qui ont été commis par des miliciens au hasard. Bon, je ne sais pas s'il faut les appeler des miliciens parce qu'ils participent déjà à la stratégie sécurité dans notre zone. Ce qui est, en fait, il y a eu des incidents, notamment dans des cas de déplacés à Goma, où il y a des mineurs qui ont été, un mineur qui a été tué, un chef des cas qui a également été tué lors d'une opération d'intervention de ces miliciens, d'après des sources qui voulaient venir, si pas voler, de l'aide humanitaire accordée aux déplacés. Mmh. Il en est également le cas à Butembo, où il y a également eu des cas pareils, où des miliciens oazalendo ont été accusés de commettre des cas de meurtre contre des taximens, des conducteurs de taxi moto, mais également il y a une structure sanitaire qui les a accusés de commettre un cas de viol contre une mineure, une fillette de près de 4 ans. Et ça démontre en fait le défi de la prise à charge de ces groupes qui, d'après les autorités, contribuent aux infos de la guerre, ça dénote des difficultés pour les services étatiques de maîtriser, de contrôler l'activisme de ces milices. Plutôt que d'être une solution, ils deviennent aujourd'hui une épine dans le pied des civils, et c'est un problème qui, ça vaut la peine que ça soit vite réglé, parce que nous risquons connaître des cas de tension à la suite de ces genres de sida, parce que par exemple à Butembo, nous avons appris par exemple qu'il y a la corporation, c'est une grande puissante corporation taximène qui est allée voir des autorités pour exiger un dialogue avec des groupes de Oisalènes qui sont tout autour de la ville, la vie de CEP, de résoudre ces genres de sida. Si les autorités ne s'impliquent pas, ce qu'ils présentent comme une solution aujourd'hui risque d'être un grand problème à gérer et dans les jours à venir, et ça nécessite donc une attention particulière à ces dossiers.
Merci beaucoup, cher Claude. Nous rappelons que vous êtes journaliste correspondant de Actualité.cd basé à Butembo. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, honorable Irakan Gratien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a captivé spécialement votre attention cette semaine, honorable?
Ce qui retient mon attention, c'est plus la situation dramatique que vit les déplacés des guerres et les réfugiés, je dirais, du côté ougandais, du côté rwandais, mais aussi les déplacés qui sont identifiés du côté interne de la RDC, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est à plus de 3 millions de déplacés. Et ces déplacés, en fait, on n'en parlait pas, mais ils n'ont pas de vivre, ils n'ont pas de quoi manger, ils souffrent, parfois l'assistance même en soins de santé, c'est vraiment insuffisant. Donc c'est une situation dont on ne parlait pas. Et je suis aussi préoccupé, notamment par la criminalité qui est persistante dans la ville de Goma. Finalement, on n'en parlait plus aussi. Et pourtant, tous les jours, il y a des cas de bandits, il y a des viols, il y a des tueries, et donc tous ces cas restent inaperçus. Et au niveau des sites Kivu, par exemple, il y a la bataille où les groupes armés qui font vraiment une résistance farouche au niveau de territoire de Fizi et de Minembwe, d'à côté de Minembwe. Donc vous trouverez vraiment que les groupes armés sont devenus plus actifs, et il y a des déplacements massifs, il y a des massacres, il y a des viols, mais on n'en parle plus. Donc ce sont des cas qui me touchent personnellement. Mais je n'oublie pas aussi à Kinshasa, ici, tous les véhicules qui font des dégâts. On voit par exemple à Matadimayo, aujourd'hui, c'était hier pratiquement, je crois, où il y a eu un camion qui n'est pas à bon état et qui a fait un accident où on dénombre plus de 7 morts. Et donc les phénomènes où les véhicules ne sont plus surveillés au niveau des constats, contrôle technique, fait en sorte qu'il y a beaucoup de cas d'accidents qui ne sont pas identifiés, et ces familles se retrouvent comme ça. Donc, et je vais terminer par la pression qui est vraiment visible sur les changements de la Constitution, et je vois comment la classe politique est divisée, et ce qui affecte même les différentes familles, où on voit maintenant la pesanteur politique qui divise les gens pour ou contre les changements de la Constitution, et c'est un fait qui risque d'avoir aussi des conséquences dans la société. Merci.
Je rectifie, honorable Irachan, excusez-moi d'avoir écorché votre nom au départ. On vous garde en ligne, on va développer ces sujets dans ces rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine. Et John Okanunu, nous rappelons que vous êtes correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Dites-nous personnellement, quelle est l'information ou l'actualité qui a captivé votre attention cette semaine?
Oui, merci Tati. Comme tout le monde, tous les co-débatteurs ont parlé de notre pays, de la situation dans notre pays. Moi, je préfère aller au Maroc. Le jeudi passé à Tanger, devant des investisseurs marocains, en présence de la première ministre Judith Suminna Touluka, à la 16e édition du forum MEDEIS, le ministre du commerce extérieur Julien Paluku Kaongia a bien vendu les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, dont le commerce, l'agro-business, l'énergie, l'industrie des batteries et des véhicules électriques, les infrastructures et le tourisme. La République démocratique du Congo, donc, constitue un grand marché, car son volume des importations annuelles est évalué à 7 milliards de dollars américains, d'où investir en RDC va vous aider à conquérir le marché américain avec l'AGOA et le marché chinois, mais aussi les marchés européens et indiens. Mon pays est l'une des meilleures destinations au monde pour les investissements, a rassuré le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku. Donc ce forum qui prendra fin aujourd'hui, 30 novembre, à Tanger, se penche sur la complexité du paysage géopolitique actuel marqué par des tensions croissantes et une fragmentation de l'ordre international avec la municipalité du système mondial caractérisée par la répartition du pouvoir entre de multiples acteurs étatiques et secteurs privés pour une nécessité d'équilibre pour ainsi maintenir la paix et la stabilité à renchéri le ministre du Commerce extérieur qui se trouve aujourd'hui au Maroc dans ces forums donc à Tanger. Voilà un peu le commentaire que moi j'ai ce matin sur l'actualité en dehors de nos frontières.
Merci à vous tous d'avoir réagi sur les nouvelles qui ont retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. Les premiers thèmes à analyser dans ces rendez-vous concernent le séjour de la première ministre Judith Suminwa, Touluka à Goma au Nord Kivu, puis à Bounia en Ituri pour une tournée d'évaluation de l'état de siège décrétée par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis le mois de mai 2021. La chef du gouvernement a reçu tour à tour les députés provinciaux, les chefs coutumiers, les acteurs de la société civile et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Et selon la primature, à l'issue de ces échanges, Judith Suminwa et sa délégation dresseront un bilan des succès et des échecs du dispositif mis en place tout en identifiant les défis sécuritaires prioritaires dans ces deux régions. Comment commentez-vous cette actualité? Nous commençons par vous, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo, au Nord Kivu.
Merci. Alors, en fait, quand j'ai appris cette visite décidée par le chef de l'État, je me suis posé une question, pourquoi faire une évaluation? Parce que de mon angle de la vie, je suis tenté de penser qu'il s'agit d'une évaluation de trop. Parce que ce n'est pas la première. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale du Parlement, nous sommes à presque après près de la 92e prorogation, après ci qui doit venir après des évaluations qui doivent se faire au niveau de députés. Et je présume qu'il s'agit des évaluations qui se font de ce côté-là. Au-delà de ça, il y avait, je crois, au mois d'août 2023, une grande table ronde qui avait mobilisé presque tous les acteurs clés et qui maîtrisent la question, l'état des sièges ou la question sécuritaire de l'Est à Kinshasa. On a vu des anciens gouverneurs, on a vu des ministres, on a vu presque toutes les instances du pays qui ont eu des délégués à ces rendez-vous-là pour une évaluation beaucoup plus approfondie. Et le président lui-même a déjà été dans cette région au-delà de la période de la campagne. C'est sûrement qu'il a eu à rencontrer certaines couches sociales lors de son passage. Mais également, il y avait une tournée qu'il avait effectuée à une période donnée dans cette région. À l'occasion, il a eu également à rencontrer les différentes couches sociales. Il y a eu le ministre de l'Intérieur qui est passé. Donc, allez-y comprendre qu'il y a eu plusieurs évaluations de l'état de siège qui se sont faites. Donc, alors la question la plus grande, pourquoi cette unième évaluation? Alors, on se pose la question, si le président, la première ministre, si toutes ces autorités du pays sont vraiment des autorités qui nous gouvernent, avec toutes ces évaluations qu'ils ont eu à faire, avec tous les services qui sont mis à leur charge, à leur profit, ils ont une nette évaluation, ils ont une nette maîtrise de la situation et ils peuvent eux-mêmes nous faire l'état de lieu de cette évaluation. Moi, je crois que la grande question, c'est la volonté de décider sur ce qui doit être fait au sujet de ce régime exceptionnel dans lequel vivent aujourd'hui les Nord Kivu et l'Ituri. Et je crée plutôt que ça soit une stratégie de nous faire gagner du temps inutilement, non, parce que l'opinion devient de plus en plus pressante et réclame la levée de l'état de siège. Et encore, il faut gagner le temps et suspendre les gens à la d'une nouvelle décision qui sera annoncée à l'issue de cette évaluation qui est faite par la première ministre. Et je voudrais quand même que les autorités au niveau du pays, qu'ils essaient de nous comprendre, qu'ils essaient de comprendre en fait les civils ici, qu'ils essaient de comprendre les préoccupations des citoyens, et qu'ils essaient de décider et qu'ils évitent d'en faire un problème politique. une simple politique politicienne. Et s'ils sont bien conscients de ce qu'il faut, je crois, on ne pourrait pas vraiment attendre grand chose de ce qui a été fait par la première ministre, parce qu'ils ont vraiment toutes les données rassurantes et ça ne manque que la volonté de décider sur soi ce qui doit être fait. Alors, évaluation de l'état de siège, la plus grande chose qui est ressortie de toutes les, de tous les rendez-vous qu'a eu la première ministre, il y a eu, malheureusement, on semble réduire encore ces évaluations à un simple problème d'alignement. Ceux qui sont pour la levée, ceux qui sont contre la levée, et on essaie d'éviter et de comprendre les vraies préoccupations de citoyens qui exigent, par exemple, à grande partie dans notre région, dans l'Est, ils exigent la levée. Et je crois ils sont le mieux placés pour dire pourquoi ils exigent la levée de l'état de siège, parce qu'ils endurent ces régimes depuis presque 3 ans. Ça qu'on parvienne à atteindre la solution qui était attendue, qui était d'endiguer les violences, de lutter contre les groupes armés. Donc depuis 3 ans, on vit sous ces régimes exceptionnels et qui nous a nourri beaucoup d'espoir, parce que je me rappelle quand on a décrété l'état de siège, c'est tout le monde qui avait peur. On se demandait qu'est-ce qui va se passer. Et mais 3 ans plus tard, on se rend compte que rien n'a été fait, vraiment pas assez grand chose qui a été fait. Au contraire, la situation
s'est empirée. Merci beaucoup, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant des actualités.cd basé à Butembo, au Nord Kivu. Signalons que l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, en vigueur depuis 2021, a été récemment prorogé pour la 25e fois. Et cette mesure exceptionnelle remplace les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés dans ces deux provinces. Honorable Irachan Gassi de Saint-Nicolas, nous rappelons que vous êtes député élu de l'Ituri. Comment commentez-vous cette actualité du séjour de la mission de service de la première ministre au Nord Kivu, puis en Ituri, pour évaluer l'état des sièges, évidemment?
Merci, Tati. Je dois d'abord commencer par souligner que proroger plus de 85 fois l'état des sièges, c'est une anomalie. Parce que vous savez, l'état des sièges, c'est un état d'exception. Donc, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais plus de 85 fois, ça veut dire que ce n'est plus une situation exceptionnelle, mais là, nous sommes plus à une situation qui devient normale. Et quand vous savez, évidemment, ce qui se passe chaque fois avant la prorogation, il y a un débat parlementaire. Et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les députés, en fait, ils n'est pas vraiment considéré comme ces dignitaires-là pouvant détenir toutes les informations qui lui permettent de représenter la population. Parce que déjà, avec cette collaboration entre la population et les députés, qui sont de la deuxième institution de la République, on devrait avoir une confiance où tous les éléments pendant les débats apportent des notions qui permettent de comprendre s'il y a évolution ou non pendant l'état des sièges.
Ou s'il faut améliorer la situation, les opérations sur terrain.
Exactement. Donc, on peut dire en fait qu'avec les débats parlementaires, l'évaluation est continue. Mais vous savez, les conditions dans lesquelles chaque fois l'état de siège est prorogé ne sont pas des conditions normales. Parfois il y a débat, parfois il n'y en a pas. Vous savez que pendant presque 3 ans, il n'y a pas eu débat. Et maintenant, quand les députés de l'Est, notamment des 3 provinces, se sont battus pour qu'il y ait reprise des débats, et ça n'a pas été une chose facile, mais finalement, on a obtenu cette reprise des débats. Mais on voit quand même que cette manque de confiance continue d'exister. Alors, il faut, par rapport à votre question, la première ministre est allée en Ituri au Nord Kivu, qu'est-ce que nous pouvons dire? En fait, moi je me dis, est-ce que c'est une évaluation ou c'est juste une consultation? Parce que aller évaluer un dispositif qui a fait presque 4 ans, et sur terrain, la première ministre travaille pendant 2 heures ou 3 heures avec les sujets concernés ou avec les structures de la population. Je trouve que c'est réellement insuffisant. Parce que quand vous devez évaluer une disposition comme état de siège, il y a des facteurs qui doivent intervenir. Donc, en termes d'indicateurs, je voudrais quand même le dire ici. Je donne un petit exemple. Il faut savoir, avant état de siège, on doit d'abord déterminer si vous avez eu combien de villages qui étaient sous occupation et finalement, ces villages, est-ce qu'ils ont été libérés ou non? Est-ce que l'armée a récupéré ces villages ou ces localités-là? Avant l'état de siège, il y avait combien de morts? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu réduire le nombre de décès? Donc, il y a des facteurs précis, notamment les routes qui étaient bloquées ou ouvertes,
qui permettent à ce qu'on puisse évaluer. Or, ce que nous avons comme information, on sait que tous ces éléments, tous ces indicateurs sont négatifs. Ça veut dire que s'il y avait, par exemple, X villages sous contrôle des groupes armés, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu plus de villages qui sont contrôlés par les groupes armés. S'il y a eu, par exemple, Y groupe armé, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de nombre de groupes armés qui se sont créés avec l'avènement d'état de siège. Et même quand on voit les voies routières. Donc, je voudrais quand même revenir sur cela pour dire que l'évaluation n'a pas été bien faite parce que le temps était vraiment minimum et on n'a pas eu à sentir comme tel qu'on est allé faire un travail qui pouvait aider la population. À 2 ou 3 heures, ce n'était pas correct. Donc, c'est juste une consultation. Moi, je félicite la première ministre pour cette mission de terrain, mais le travail n'a pas été fait correctement vu la réalité de ce que nous sommes en train de traverser dans les zones sous état de siège. Pour dire qu'en fait, 3 mois après le lancement de l'état de siège, nous avions évalué à l'Assemblée nationale que les bilans étaient mitigés, donc négatifs, et il y a eu toute une série d'évaluations même avec l'ancien premier ministre Samalou Kondé, qui évaluait toujours en négatif, et aujourd'hui, c'est la même situation que la première ministre a trouvé, que ce soit au Nord-Kivu et à Ituri, où la population est persistante, la situation ne va pas bien, n'évolue pas bien avec l'état des sièges, c'est toujours négatif. Donc, moi, je salue cette action de descendre sur terrain, mais je demande à ce que les résolutions trouvées sur terrain soient considérées comme telles, qu'il n'y ait pas de manipulation. Parce que déjà, nous avons vu qu'il y avait manipulation, que ce soit en Nord-Kivu et en Ituri, et ce sont des choses que nous sommes en train de déplorer, parce qu'on ne peut pas développer un pays quand on manipule les chiffres, quand on manipule l'opinion. C'est trop dangereux.
Merci beaucoup, honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Restez en ligne. Je retourne ici au studio pour donner la parole à Jean Canugnou. Nous rappelons qu'il est correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Chers collègues, comment commentez-vous la première ministre Judith Suminois a récemment mené une mission stratégique dans ces régions, au Nord Kivu et en Ituri, afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises. Cependant, il y a des critiques sur l'efficacité de cette mesure, avec des appels à lever cette mesure, la mesure de l'état de siège, dont les résultats semblent être mitigés sur le terrain. Comment commentez-vous cette actualité?
Oui, merci, cher Tati. En tout cas, tous les co-débatteurs ont tout dit. Ils ont tout dit. Donc, ils ont dit comme s'ils lisaient dans mon cœur. Et l'évaluation, oui, c'est pas la première fois comme tous les co-débatteurs l'ont dit précédemment. Et moi, je pense que l'évaluation, c'est bien. Mais pour aller évaluer, il faut savoir qui doit faire partie de la délégation et comme
établir un terme de référence de cette évaluation.
Voilà un terme de référence. Mais on se dit bon, la première ministre va aller à Goma, va aller à Bunia.
Puis à Bunia.
Oui, c'est bien. Mais moi, je me dis une chose. Aller évaluer l'état des sièges, c'est comme si bon, moi je me dis quand même, c'est la première fois que la première ministre visite ces contrées, c'est déjà bon. Comme c'est une maman, c'est une dame, je pense que cette fois-là, le président de la République sera attentif à ce qu'elle va lui donner comme rapport pour donner quand même pour écouter la population, écouter le peuple, parce que le slogan du président de la République, je l'ai toujours répété, c'est le peuple est d'abord. Il faudrait pas que le peuple pense que ce slogan-là a été enterré par Étienne Tshisekedi ou Amulumba, le Sphinx, parce que c'était son slogan à lui. Et son fils, qui est notre président actuellement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit pérenniser ces slogans. Et aujourd'hui, il faudrait pas que le peuple pense que sa priorité ou ses priorités soient les cadettes des priorités du chef de l'État. Et je l'ai toujours dit, la personne la mieux informée dans ces pays s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe sur le terrain et il est celui-là qui est habilité à lever ou maintenir sa décision.
Parce que la majorité de la population de l'Est demande à ce qu'on puisse lever cette mesure.
Mais c'est ça la vérité.
Qui n'apporte presque pas des résultats escomptés sur terrain.
Même pas la population de l'Est. C'est tous les Congolais qui pensent que cette mesure doit être levée parce qu'elle a prouvé ses limites. L'honorable Irachan a parlé des villages qui étaient entre les mains des groupes armés qui doivent être déjà reconquis par l'armée. Mais je dois vous décevoir parce que pendant l'état de siège, les choses se sont empirées. C'est pendant l'état de siège que le 1-23 a pris Bunagana, le 1-23 a pris Rutshuru Centre, le 1-23 a pris Lubero, et alors que pendant les rébellions, pendant les guerres précédentes, je parle du CNDP en 2007, je parle du 1-23 version 2012, ces rebelles-là n'avaient jamais piétiné ou n'avait jamais foulé les pieds, le sol de Lubero. Lubero, donc Kanyabayonga, était une sorte de frontière naturelle entre les différentes rébellions qui viennent du sud, donc parce que au nord Kivu il y a ce qu'on appelle le Grand Nord et le petit nord où on peut l'appeler le petit sud. Mais pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces époques-là, les rebelles n'avaient pas foulé leurs pieds à Kanyabayonga. Mais aujourd'hui, ils sont presque à la porte de Lubero Centre, ce qui est le chef-lieu du territoire de Lubero.
Donc ça démontre clairement, cher John, que l'état de siège a démontré ses limites.
C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des massacres à Beni, les massacres qui étaient circoncis dans un certain rayon. Mais aujourd'hui, les ADF, les terroristes ADF, ils ont maintenant élargi leur rayon d'action. Ils sont maintenant dans les territoires de Mambasa, où ils massacrent presque tout le jour. Ils sont dans les territoires de Irumu,
en Ituri.
Et aussi dans les Lubero, à Mangureji, pas El Japande et autres. Alors que, à un moment donné, même avant l'instauration de l'état de siège, ces gens-là n'étaient pas à ces niveaux. Bien sûr, il y a le travail qui est en train d'être fait par les armées coalisées, donc les opérations conjointes, l'armée congolaise, les FARDC, et l'armée ougandaise, l'UPDF, qui sont en train quand même de faire un grand travail, mais... hier, vendredi, les ADF ont attaqué encore un village, non loin de Oicha, donc chef-lieu du territoire de Beni. Donc ça veut dire que cette mesure-là était salutaire, selon la population. Moi, je suis un journaliste du terrain, je suis un rapporteur de guerre, et je vous dis, quand cette décision-là a été prise, les gens s'étaient dit, la population que nous interviewons, c'était dit, en tout cas, c'est la fin des massacres, c'est la fin des rébellions à répétition dans la partie orientale de notre pays. Ça avait suscité une sorte d'espoir dans le chef de la population. Malheureusement, on ne voit pas ce que à quoi on s'attendait. Donc, bref, que le chef de l'État laisse les militaires faire leur travail reconnu par la Constitution, par les lois de la République. Donc, les militaires à la tête des provinces actuellement, je dois vous l'avouer, ils n'ont aucune marge de manœuvre, ils n'ont pas de commandement dans leurs mains. Donc, c'est comme si on avait des gouverneurs civils à la tête de ces deux provinces. Parce que le gouverneur militaire n'est aucunement commandant des opérations, il ne gère pas l'armée dans son entité. Donc, il joue le rôle d'un gouverneur civil. Je pense que il faudrait que le président de la République revoie sa décision et suive la voie du peuple. Parce que le peuple lui demande de laisser les militaires faire leur travail. C'est bien, il est en train d'équiper l'armée. Mais qu'il laisse ces militaires-là, les généraux-là qui sont à la tête de ces deux provinces. Ils peuvent faire la prouesse sur terrain, sur les champs de bataille. Aujourd'hui, rien n'avance et rien ne recule. Les rebelles du M23 sont dans leur territoire conquis et ils sont là en maître, ils règnent en maître et aujourd'hui aucun espoir de voir ces rebelles boutés dehors. Donc bref, l'armée doit, le commandant suprême qui est le chef de l'État doit laisser l'armée faire son travail et laisser les civils politiques faire leur travail. À mon avis, c'est ça, et je pense que c'est ça l'opinion de toute la population qui nous suit à pareil moment.
Merci beaucoup, cher John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant de la radio internationale allemande, Deutsche Welle. Merci à vous tous d'avoir émis vos avis sur la mission de service de la chef du gouvernement, Judith Souminois, à l'est du pays et dans sa partie orientale, pour évaluer l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis les mois de mai 2021. Nous allons observer une petite pause musicale en écoutant la chanson Tokoku Fabona Ekolo et nous allons revenir dans ces studios.
Batata bama mabile bebo tombola mandokie koto pene tumba eto kunda mpone kolo na miso kongo
kongo
nande akela mokili na mikolo monyele aeko kabola na biteni ya biso ete likozwa babengi kongo
Etona bombe kona mai na zamba pe na mabele Etona na bato ya piko ya bwana mpe ya mayele Panoko ba mekato buna mpe toza lipanda
Jamais, jamais, jamais toko zonga lisusu na bomwe
Yawe ya pesa biso mabele ya motu ya
e Ekonyo pesa baso suni te basa bolo
Yawe ya pesa biso mabele ya bonsoni
d'écouter la chanson Tokoku Fapona Ekolo, une chanson patriotique que les musiciens congolais ont produit pour manifester leur mécontentement contre l'invasion de la RDC le 2 août 1998. Et nous clôturons en même temps la première partie de notre magazine Regard sur l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous juste après l'édition du journal. À tout à l'heure.
Radio Okapi, Regard sur l'actualité de la semaine.
Nous Vous voici dans la seconde partie du magazine radiophonique Regard sur l'actualité la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 au R de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités ici présents au studio et au téléphone, nous essayons de décortiquer l'actualité et savoir en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur le vécu quotidien de la population congolaise. Et dans la première partie de ce magazine, chacun de nous a émis un commentaire sur un fait d'actualité qui a retenu son attention pendant cette semaine finissante. Et nous avons également commenté l'actualité du séjour de la première ministre Judith Suminwa à Goma et à Bounia pour évaluer l'efficacité de l'état de siège dans ces deux régions décrétées par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis le mois de mai 2021. Et dans cette seconde partie du magazine Regard sur l'actualité de la semaine, deux thèmes feront l'objet d'analyse, à savoir les renouvellements de l'intention du chef de l'État Félix Tshisekedi d'aller au référendum pour trancher sur les changements ou la modification de la Constitution lors de son meeting populaire tenu à Kalemie dans le Tanganyika, et le début de l'opération de délivrance des permis de conduire qui a officiellement commencé ici à Kinshasa. Participe à ces rendez-vous Claude Senghenia, nous rappelons qu'il est journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo au Nord Kivu. Honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas, nous rappelons qu'il est député national élu de l'Ituri. Nous avons également ici au studio John Kanyunu, nous rappelons qu'il est correspondant de la radio allemande de Tchouville.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le premier sujet de cette seconde partie du regard sur l'actualité de la semaine concerne les renouvellements de l'intention du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'aller au référendum pour trancher sur les changements ou la modification de la Constitution. Le chef de l'État a réaffirmé son soutien à un référendum pour trancher sur l'avenir de la Constitution lors d'un meeting populaire tenu le mardi dernier à Kalemie. Face à une classe politique divisée et une société civile inquiète, le chef de l'État a insisté sur le rôle déterminant du peuple congolais dans ces processus qu'il considère comme une étape clé pour l'avenir institutionnel du pays. Comment commentez-vous cette actualité? Nous allons commencer par vous, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste correspondant de Actualité.cd basé à Beni, à Butembo, pardon, au Nord Kivu.
Personnellement, en fait, j'ai suivi le chef de l'État dans son meeting au Katanga. Il a évoqué cette question. Je n'ai pas personnellement apprécié le ton employé parce que c'est, tout le monde sait qu'il est le garant de la nation, mais cette qualité ne lui confère pas aussi tout le pouvoir de tout faire, en fait. Et nous sommes bien d'accord qu'il y a des articles qui fâchent dans notre constitution. Il y a parfois des experts qui ont toujours révélé que, par exemple, il y a certaines choses qui sont dans la constitution qui ne permettent pas, par exemple, la mise en effectivité, par exemple, la décentralisation. Ils essaient d'évoquer des faits, en fait, qui sont assez évidents dans le vie quotidien des Congolais. Et on est bien d'accord qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on se les réduise, qu'on essaie d'évaluer, mais est-ce que le moment de remettre cela dans l'opinion publique est emporté? Parce que depuis que je suis tout ce débat autour de la révision de la Constitution, surtout pour les cas du régime en place, je n'ai pas encore retenu l'objet précis et qui fait l'objet de leur démarche, s'ils veulent réviser quoi. Et je considère toujours tous ces articles qui sont en train d'évoquer, en fait, comme des réactions spontanées, mais on ne sent pas vraiment encore le vrai problème qui attise leurs préoccupations. Pourquoi on veut réviser? Est-ce que le moment aussi est propice? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres problèmes qui peuvent attirer notre attention. On est bien d'accord qu'il faut faire des choses, mais pourquoi on doit le faire? Alors, mon regret se fonde surtout sur le réaction que nous sommes en train de suivre, parce que nous avons réduit ces grands débats d'intérêt national à un simple problème d'alignement. ceux qui sont pour la révision, ceux qui sont contre la révision. Et permettez-moi de les dire, et j'ai suivi le gouverneur s'aligner derrière la démarche du chef de l'État. Ça m'a un peu rappelé cette image-là, à l'époque du régime de Kabila, où on voyait déjà s'aligner pour aller recevoir des injonctions, ça pour autant aussi réfléchir. Moi, je pense que la plus grande préoccupation des Congolais n'est pas qu'ils sont contre même la révision, mais l'objet précis. Si on met sur notre table l'objet précis de la révision, on respecte le pot de vie des gens, on écoute les gens. Je crois qu'à un moment donné, oui, on va se mettre d'accord que ça vaut la peine, mais il faut éviter de réduire, de prendre la Constitution aussi pour responsable de tout ce que nous sommes en train de connaître comme problème. On n'a pas que le problème des textes, mais on devrait être en train de les répéter. Et il y a le problème de la volonté d'appliquer les textes qui nous régissent. C'est ça le plus grand problème. Donc je pense que nous devons être sérieux à un moment donné quand nous évoquons ce débat de la Constitution, parce que plutôt que de nous rassurer, plutôt que de nous unir, c'est un débat malheureusement qui est en train de nous diviser. Et c'est vraiment un grand malheur, parce que ça ne va pas vraiment à concourir à cet idéal-là du vivre ensemble, et tout simplement parce qu'on a adopté une démarche assez simpliste et d'un alignement simple. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont contre le président. Et c'est ce que je regrette, alors que ça vaut la peine qu'on en débatte de manière assez logique et réaliste. Par exemple, les militaires qui sont en front, ils ne manquent pas, ils ont un problème de nourriture. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je reviens de Beni pour une petite enquête. Il y a un militaire ougandais qui m'a posé la question, mais est-ce que vous nourrissez vos militaires? Parce qu'à chaque fois que quand nous allons dans les fins fonds de la brousse, la forêt pour traquer le rebelle ADF, parfois ils n'ont pas à manger. J'ai couvert dernièrement le procès des militaires fouillards devant le M23 à Lubero. Vous savez ce qu'ils ont dit devant la cour, le tribunal militaire plutôt, ce qu'on leur remet par exemple 2 bols de farine de maïs pour couvrir par exemple la ration de toute une semaine. Est-ce que c'est le problème de la Constitution?
Non.
Est-ce vraiment le problème de la Constitution? Non. Je pense que non, mais on est en train de manipuler l'opinion, de manipuler les citoyens pour vouloir nous démontrer que si nous sommes en train de vivre la misère, on est en train de vivre un problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des textes qui sont faux, alors qu'il y en a non.
Merci beaucoup, cher Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant d'actualité.cd, basé à Butembo. Gardez l'écoute, restez en ligne. Je me tourne vers honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Comment commentez-vous cette actualité? Le chef de l'État a renouvelé son intention de modifier ou de changer la Constitution lors de son meeting tenu le mardi dernier à Kalemi dans le Tanganyika. Votre commentaire à ce sujet?
Donc, je dirais, en gestion politique, il y a 2 facteurs importants dont il faut en tenir compte lorsque vous gérez un pays. Il s'agit de l'opportunité et aussi de la priorité. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est opportun pour le moment de réviser ou de changer la Constitution? Deuxième question, est-ce que c'est une priorité pour le moment de réviser ou de changer la Constitution? Je vous donne un petit exemple pour comprendre. Le chef de l'État, il s'est rendu à la province de Tanganyika. Et vous savez la situation qui est là, parce que moi, j'ai eu à passer par Tanganyika en 2021. Je suis allé du côté Muliro, c'est de l'autre côté du lac Tanganyika. Et nous avons une situation extrêmement grave aujourd'hui dans la province de Tanganyika, notamment une partie de notre territoire qui est prise en otage par la Zambie. En fait, nous sommes sous occupation dans cette province-là. Alors, ça, c'est une question cruciale, prioritaire, mais quand vous voyez les
passages de chef de l'État... Et ça, on n'en parle presque pas. Hein? On n'en parle presque pas, honorable.
Une situation qui a fait presque 4 ans, c'est de la même manière que nous sommes amputés de notre territoire vers l'est de la RDC. Et donc ça devait être une question prioritaire lors du passage du chef de l'État dans la province de Tanganyika. Donc c'est une priorité. Donc on traite la politique en termes de l'opportunité et des priorités. Malheureusement, on n'a pas vu cette question être balayée. Et si nous revenons justement à ce qui concerne cette constitution, vous savez que nous sommes dans un pays qui est en guerre aujourd'hui. Donc les territoires est empité. Et donc il faut qu'on voit plus comment nous pouvons faire retourner la paix dans notre pays.
C'est récupérer les portions de terre qui sont entre les mains des forces négatives.
Exactement. Nous sommes dans un pays où la cohésion n'est pas totale, n'est pas parfaite. Comment revenir à la cohésion nationale? Parce que ce n'est pas un secret aujourd'hui, les Congolais sont divisés.
Très divisés.
Et vous savez que dans chaque pays, dans un grand pays comme la RDC, c'est le consensus qui doit en emporter sur des mots d'ordre, ou je ne sais pas s'il faut qualifier cela de dictature, je me réserve, mais on n'a pas besoin de mots forts ou des gens qui s'imposent sur une communauté, mais des gens qui adhèrent à une idéologie ou à des idées du groupe. C'est ça, nous avons cela pour notre pays. Et donc, pour le moment, moi, tout ce que je pourrais conseiller au pouvoir en place, c'est de ralentir un peu et d'aller plus vers les questions importantes. La guerre, la réunification de notre pays, la paix, la cohésion nationale.
Merci beaucoup, honorable Irakan Gracien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Restez en ligne. Je me tourne vers vous, cher collègue John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant de la radio internationale allemande de Chevel. Comment commentez-vous cette actualité? Le chef de l'État a renouvelé son intention de nouveau lors de son meeting tenu le mardi dernier à Kalemi, celle de retoucher, de renouveler ou de celle de modifier ou de changer carrément la constitution, et les gouverneurs qui sont en conférence là-bas se sont prononcés pour l'initiative du chef de l'État.
Oui, j'ai comme l'impression aujourd'hui, cher Tati, que vous m'avez invité pour accompagner les co-débatteurs, parce que tout ce qu'ils disent, c'est comme si
c'est un débat complémentaire, cher
collègue, dans mon cœur, dans mon esprit. Donc tout a été dit par rapport à ça. Nous sommes journalistes. Nous sillonnons des coins et recoins de ce pays, actuellement dans la ville, province de Kinshasa. En tout cas, pour la première fois, je suis sur les motos des Wewa, des taximen. Vous êtes calme derrière lui et puis il vous dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que vraiment c'est opportun de changer la constitution, de modifier la constitution pendant que nous n'avons pas de route? Ah, je me dis, mais monsieur, nous devons soutenir
l'initiative.
Dis non, mais quand même, la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est d'abord la bouffe. La priorité, ce sont les routes. La priorité, c'est déterminer d'abord la guerre dans la partie orientale du pays. Maintenant, il y a l'information donnée par le co-débatteur, l'honorable Irachan, sur l'occupation d'une portion de notre territoire dans les Tanganyika par la Zambie. Et donc vous comprenez, ça devrait normalement ça être les priorités des priorités des autorités. Et moi j'ai toujours dit, moi je suis ouvert. Nous faisons des vox pop, donc ce qu'on appelle micro baladeur, et avant l'actuel régime, il y a des gens qui disaient, mes journalistes, vous parlez avec les autorités. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire parvenir notre voix au président Joseph Kabila pour qu'il termine d'abord avec ces massacres et puis voir comment il peut rallonger sa présence à la présidence de la République?
Vous voulez dire le président Félix Tshisekedi?
Non, je parle bien du président président honoraire Joseph Kabila.
Parfait.
À l'époque. Et moi, j'avais eu la chance de côtoyer certains de ses proches et je leur disais ça. Et vous savez, c'était quand? C'est quand il y avait le dialogue là de la cité de l'UIA, donc l'Union africaine, ex-OIA. Après cela, il y a eu le dialogue de la CENCO. Et les gens me disaient, mais chers journalistes, tout ça, c'est du gaspillage des moyens de l'État, c'est du gaspillage de l'argent, du gaspillage du temps. Que les autorités de Kinshasa fassent tout pour arrêter ces massacres, et puis ça va aller de soi. Vous savez quoi? Par exemple, au Nord Kivu, et en Ituri. La population est majoritairement cultivatrice et commerçante.
Exactement.
Et aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des hectares et des hectares de cacao qui pourrissent le cacao qui
dans les plantations parce
dans
que
les plantes, dans ouais. les champs parce que
insécurité, ils savent pas aller au champ.
Vous allez au champ, il y a des ADF qui vont vous tuer. Moi je pense que le président de la République qui est le garant de la nation et qui est redevable à la population, parce que c'est pas cette poignée d'individus qui crient, qui chantent tous les jours béton, qui chantent tous les jours roi soleil, qui c'est pas seulement cette poignée d'individus qui ont voté pour lui.
Non,
c'est d'abord dans le Grand Nord, le président a été élu à 99,37% si ma mémoire ne me trahit pas. Donc cette population là, tous ces Congolais là qui ont renouvelé leur confiance en sa personne, je pense que leur priorité aujourd'hui, c'est pas cette constitution.
C'est de finir la guerre, c'est de stabiliser la situation.
C'est seulement
à l'est
ça.
Du pays,
c'est seulement ça.
Et si, les sociales.
Et si le président de la République donne cette grâce-là, accorde cette grâce-là à la population de l'est du pays, et qu'il termine cette guerre-là, en tout cas, je vous dis, et je mets ma main à couper, il y aura personne. Encore personne pour l'empêcher de faire ce que lui dit, parce qu'il dit qu'il y a personne qui peut l'empêcher de le faire. Mais si il ramenait la paix dans la partie orientale de notre pays, si il améliorait les conditions de vie de la population, même des Quinois, en tout cas personne ne le dérangera, surtout qu'il a encore 4 ans devant lui.
Merci beaucoup John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes journaliste correspondant à la radio internationale allemande Deutschwelle. Et merci à vous tous d'avoir commenté cette actualité relative à l'intention du chef de l'État visant à modifier ou à changer la constitution promulguée en 2006 par le président honoraire Joseph Kabila. Alors le troisième et le dernier thème de ce magazine concerne le lancement de l'opération des délivrances et des permis de conduire par la Commission nationale des délivrances des permis de conduire Conadep en sigle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre chargé de transport, Jean-Pierre Bemba, a officiellement lancé le lundi 25 novembre dernier à Kinshasa l'opération de délivrance des permis de conduire biométriques en RDC. L'obtention de ces permis de conduire sera conditionnée à la réussite aux examens théoriques et pratiques selon la Conadep. Comment analysez-vous cette nouvelle? Je me tourne vers vous, Claude Osengenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo.
Oui, merci. En fait, personnellement, je saluais le lancement de cette opération parce que je me suis dit depuis un temps, nous étions tous dans l'irrégularité dans notre pays parce que c'est lancé sur des routes sans être permis et sans avoir la compétence, avec le risque qu'on encourait, donc c'est l'aspect sécurité et autre chose. Alors moi je me dis c'est une opération à saluer, dans le sens où elle vise à sécuriser les citoyens et qui se jettent sur la route, mais aussi c'est une opération qui vise, quand on voit la qualité vantée de ce bien, de ce permis de conduire, c'est un nom qui vise donc à renforcer la réputation de l'administration pour ce qui est de la qualité de ces documents. Mais et je pense qu'il faut travailler maintenant sur deux choses. La poursuite de l'opération, parce que nous avons vu dans ce pays, à une période, il y a eu le lancement de l'opération de la délivrance de pièces d'identité, mais apparemment
qui
nous
s'est n'avons arrêté,
une seule pièce, une seule personne qui détient aujourd'hui une pièce d'identité. Et je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, donc que l'opération puisse se poursuivre. Deuxième chose, c'est ce que j'ai apprécié, c'est la procédure qui a été précisée, la procédure à suivre pour obtenir le document, le permis de conduire. Je voudrais, parce qu'on a exigé, non, désormais ça va se passer après l'examen théorique et pratique, et je voudrais qu'on veille au respect strict de la procédure, parce que j'ai suivi dernièrement, c'était un documentaire de la BBC qui parlait de conséquences du non-respect des procédures dans la délivrance des permis qui a été à la base de plusieurs cas d'accidents au Kenya. Moi je pense réellement qu'il le prouvait comment, parce que parfois de la fraude, il y a le non-respect respect, on accorde aux personnes qui n'ont pas été formées à conduire, et toutes ces conséquences finissent sur nos routes et au compte des morts, au compte des blessés, tout simplement parce qu'en amont, il n'y a pas eu un respect strict, une discipline pour faire respecter ces cadres précis. Et si on reste à la place, mais aussi autre chose qui m'a tiqué, c'est que quand je vis le prix, notamment la répartition de revenus, j'ai eu comme l'impression que c'est notre État qui aurait été perdant parce que et qui ne va recevoir que presque les un tiers, alors que le reste va être affecté, va être remis, si pas rétribué, à la société qui est chargée d'imprimer ce bien. Je crois, en siècle actuel, nous devons aider à honorer le pays, à relever sa réputation, pour que quand même, même la délivrance de permis de conduire, que nous ne puissions pas être un État qui soit incapable. Donc, je salue, mais j'appelle donc au respect des procédures, parce que la sécurité des usagers des routes,
on dépend.
Ça vaut la peine.
Merci beaucoup, cher Claude. Merci beaucoup, cher collègue. Claude Senghenia, nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant des actualités.cd basé à Butembo, au Nord Kivu. Je me tourne vers vous, honorable Irakchan Gracien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Comment commentez-vous cette nouvelle relative au début de l'opération de la délivrance des permis de conduire à Kinshasa, et l'opération va s'étaler à travers la République?
Oui, en fait, j'ai j'accueille avec joie cette nouvelle portant maintenant à délivrance des permis de conduire, c'est une très bonne chose. Mais j'ai une crainte, parce que est-ce que vraiment la délivrance des permis, maintenant, dans les contextes où nous sommes, va vraiment résoudre les problèmes que nous avons, notamment l'embouteillage, notamment la régularisation des documents? Bon, j'ai des craintes. Pourquoi?
L'indiscipline des conducteurs.
On ne doit pas juste voir qui est, voilà l'optation où les permis de conduire vont nous apporter des recettes, ou alors vont avoir constitué des documents pour les détenteurs. Mais il y a d'autres conditions qui vont de pair avec l'optation des permis de conduire, notamment la formation des contrôleurs même de ces permis de conduire. Vous ne pouvez pas, je dirais, vendre des permis de conduire ou alors remettre des permis de conduire aux chauffeurs, aux conducteurs de véhicules, quand la police elle-même n'a pas de notion de contrôle sur le terrain. C'est un problème. Les inspecteurs de parquet, les inspecteurs de la police, donc tous doivent être formés. Et quand on vous parle de permis de conduire, il faut qu'on se base aussi du constat technique des véhicules. Ça, c'est très important, parce que vous irez faire des tests avec un véhicule qui est censé être à bon état. Mais est-ce que dans notre pays, le fonctionnement portant contrôle des constats techniques, est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que tous les garages fonctionnent de l'état dans les services où on devrait contrôler ces véhicules? Je ne crois pas. Donc, si on veut arranger la situation des permis de conduire, il faut remettre en état de fonctionnement tous les services qui font les constats techniques, et remettre aussi tous les centres de formation qui peuvent permettre à ce que les contrôleurs, notamment la police et les inspecteurs, puissent être remis à niveau. Et sachez que le permis de conduire, c'est exactement comme un certificat, c'est exactement comme un diplôme. Donc, c'est un document qui s'obtient après une formation. Je me demande, pour le cas de Kinshasa, où nous vivons, par exemple, quelle est la mesure qui est mise en place? C'est vrai, ils disent que, bon, on va vous délivrer le permis après examen. Oui, il y aura la théorie, il y aura la pratique. Oui, mais quel est ce temps qui va prendre de fou? Quel temps cette formation va pouvoir prendre? Et aussi, quelles sont ces maisons ou ces organisations qui vont assurer la formation de tous ces candidats chauffeurs ou tous ceux-là qui doivent être remis à niveau pour obtenir le permis de conduire? Vous êtes dans une ville où il y a plus de 15 millions d'habitants, où s'il faut remettre tous ces chauffeurs en procédure normale, en règle, il faut un minimum de temps record pour qu'on puisse les mettre à niveau, mais il faut aussi des centres de formation.
Exactement.
Alors, est-ce que le ministère de transport a mis en état ou a remis en état tous ces centres de formation? Quelle est la solution palliative pour qu'on puisse avoir ces centres de formation en état record et permettre à ce qu'on puisse délivrer les permis de conduire. Sinon, on va revenir à la même pratique où on délivre des permis de conduire juste parce qu'on a encaissé 100 $, 150 $, et c'est fini comme ça, et on se retrouve avec des chauffeurs qui ne connaissent eux-mêmes rien de la conduite sur la route. Donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait un accompagnement qui permette à ce qu'on puisse effectivement former les chauffeurs ou les candidats pour obtenir les permis de conduire, et qu'il y ait quand même la formation de la police. Ça, c'est très essentiel pour que ça ne se transforme plus maintenant en tracasserie. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nos éléments de l'ordre. Parfois, ils demandent juste des permis de conduire par formalité, mais ils oublient que ça devrait être un permis qui voit si la personne a qualité de pouvoir conduire un engin. Et donc, si lui-même n'a pas la connaissance, on sera en difficulté et ça sera la peine perdue.
Merci beaucoup, honorable Irachan Gratien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député national élu de l'Ituri. Je me tourne vers vous, cher collègue John Kanyunyu. Nous rappelons que vous êtes correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Comment commentez-vous cette actualité relative à la délivrance des permis de conduire qui a été initiée par Jean-Pierre Bemba le lundi passé?
Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai mon permis de conduire ici, qui est encore lisible, qui est encore valable, parce que on nous avait dit que en attendant les nouveaux permis, nous qui avons d'anciens permis, ça doit nous servir de conduire.
Jusqu'à donc, nouvel ordre, oui.
Voilà, il a été expiré en 2021. Et le problème, l'honorable Irachan a soulevé un vrai problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons un pays continent. Est-ce que dans la délivrance des passeports, des permis de conduire, excuse-moi, parce que le permis de conduire et le passeport, c'est presque le même document, est-ce que ils ont tenu compte de la réalité de notre pays, de l'immensité de notre pays? Je ne sais pas. Parce que quand tout le monde doit être, les tests là, il doit être formé, je ne sais pas quoi, la partie théorie, la partie pratique, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Parce que, par exemple, prenons à Mungwalu, là-bas, est-ce qu'il y a des garages? À Mungwalu, c'est à Ituri,
pour ceux qui
ne connaissent pas l'Ituri. Donc à Mungwalu, c'est à Ituri. Est-ce qu'il y a des garages qu'il faut pour cette pratique, cette formation? Et qu'est-ce qui prouve que cette fois-là, on va respecter la procédure? Je pense que en RDC, nous avons plein de discours de bonne intention, mais au finish, on revient à la case départ. Moi, je pense que c'est une bonne intention et les co-débatteurs ont soulevé certains points d'inquiétude et j'espère que les autorités vont y travailler, mais je ne pense pas que c'est là sera comme selon ce que nous voulons, parce que ça nous écœure d'assister à plusieurs cas d'accident, comme l'a dit dans la première partie de cette émission l'honorable Irachan, l'accident qui a eu lieu
dans le Kinshasa.
Voilà, donc c'est un peu ça, mais nous devons être sécurisés et je pense que demain ou après-demain ils vont comprendre que cette procédure est longue et ils seront obligés de donner des permis à qui donne l'argent et puis voilà, on va pas suivre ça. Je pense que c'est dans un premier temps nous faisons comme si nous étions sérieux dans ce que nous faisons, mais à un moment donné
il y aura un relâchement
et tout le monde, même quelqu'un qui ne sait pas conduire aura son permis. Il suffit d'envoyer sa carte, sa photo passeport et l'argent et puis l'identité, c'est tout. Donc on commence par des bonnes choses qui font du bien à l'oreille, mais au finish, on finit par céder.
Donc vous souhaitez qu'il y ait de la rigueur dans cette opération des
permis,
les recyclages des conducteurs.
Je souhaite qu'il y ait de la rigueur, oui, mais l'immensité de notre pays, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui est à Arou ou quelqu'un qui est à Loufou, pour avoir le permis de conduire, est-ce qu'il faut
qu'ils viennent à Kinshasa ou à Matadi?
Je pense non. Est-ce qu'ils vont décentraliser
le service,
les services? Je ne sais pas. Bon, jusque-là, peut-être, j'ai pas tout lu, mais je pense que s'ils veulent qu'il y ait l'efficacité dans ce qu'ils ont pris comme décision, il faudrait décentraliser le pouvoir, décentraliser les services, et là, ils risquent d'avoir les résultats escomptés, mais à l'allure où vont les choses avec notre pays continent, je pense qu'il sera obligé de lancer et puis d'octroyer le permis de conduire comme ça se faisait dans le temps passé.
Merci à vous tous d'avoir commenté cette actualité concernant les débuts de l'opération de la délivrance des permis de conduire en RDC le lundi dernier. Nous allons souffler un peu avec la musique, avec la chanson Soufflé de l'orchestre Bella Bella. Vous venez là de suivre la chanson Soufflé de l'orchestre Bella Bella des frères Soki. Et je profite également de l'occasion pour remercier mes invités avec qui nous avons analysé les faits saillants de la semaine. Nos sincères remerciements à vous trois, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo. Merci à vous, honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas. Nous rappelons que vous êtes député élu de l'Itourie. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous. J'ai dit également à vous, John, cher collègue John Kanyunyu, nous rappelons que vous êtes correspondant de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous et excellente journée à vous tous. C'est par ici que s'achève les magazines radiophoniques Regard sur l'actualité de la semaine. Tati Mapoukou était à la présentation de l'émission sous la coordination de Kélin Kouté. Martin Sebujango était à la supervision et Polydor Basunga s'est occupé de la prise de son. À toutes et à tous, excellent week-end et à très bientôt. We'll